autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour, bienvenue. En début de semaine, l'UNESCO a lancé l'Année internationale de la lumière. Quel rôle joue-t-elle dans notre vie quotidienne ? Comment la mesurer ? Pourquoi est-elle essentielle dans l'histoire des sciences ? Comment est née la physique de la lumière ? Pourquoi le XVIIe siècle est-il une période charnière ? Quels sont les apports de Descartes, de Newton et de Huygens ? Comment s'opposent la théorie ondulatoire et la théorie corpusculaire ? Comment est née la théorie des quantas ? Comment Einstein a-t-il ouvert la voie à la physique quantique ? Autour de la question « Comment analyser la lumière ?», la réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Michel Blais.
Bonjour Sophie Joubert.
Vous êtes historien, philosophe des sciences, directeur de recherche émérite au CNRS et vous présidez depuis janvier 2010 le comité pour l'histoire du CNRS. Vous préfacez deux livres majeurs sur la lumière qui sont réédités par les éditions Duno, Optique de Newton, paru en 1704, et le traité de la lumière de Huygens, paru en 1690. Alors nous allons voir comment les savoirs sur la lumière se sont vraiment structurés à cette époque-là. Je le disais, l'UNESCO vient de lancer l'année internationale de la lumière. Le lancement a eu lieu en France un peu plus tôt, hein, le 8 janvier. Je voudrais vous faire écouter la voix de Serge Haroche, prix Nobel de physique en 2012, et parrain avec Claude Cohen-Tanouji du Comité national d'optique et de photonique. Il parle de la difficulté de mesurer la lumière.
Mesurer la lumière, c'est une opération qui est extrêmement courante dans la vie quotidienne. C'est le fait de voir simplement. Et toute l'information qui nous vient du monde extérieur provient de ces mesures de lumière. Le problème est qu'en général, lorsqu'on mesure la lumière, on la détruit. Lorsque vous recevez de la lumière par votre œil, par exemple, cette lumière est transformée sur votre rétine en un influx nerveux qui arrive à votre cerveau et qui fait que vous voyez. Mais les photons qui ont provoqué cet influx sont détruits, sont absorbés par la rétine. De la même façon, les détecteurs que la technologie moderne utilise détruisent la lumière, les photomultiplicateurs, les photodiodes détruisent la lumière qu'elles détectent.
Réaction, Michel Blais ?
Ah ben, tout cela est fort juste, mais le résultat d'une très très longue histoire.
Voilà. Absolument. Alors, depuis quand a-t-on commencé à mesurer la lumière ? Parce qu'il faut bien savoir de quoi on parle. Au fond, les mesures de la lumière ou les travaux sur la lumière de l'Antiquité n'ont rien à voir avec ceux du XVIIe.
Non. Alors, le point de départ de ce dont parle Serge Haroche, si je puis dire, le point de départ, c'est le XVIIe siècle. C'est-à-dire quand on se pose la question de qu'est-ce que la lumière ? Qui est une question qui nous semble aller de soi, mais qui ne va pas nécessairement de soi, parce que si on remonte dans l'Antiquité, faut pas dire n'importe quoi, il ne se pose pas la question de qu'est-ce que la lumière, il se pose la question plus naturelle, à mon avis, plus spontanée, comment je vois.
Voilà.
Et en se posant cette question, évidemment, on ne répond pas du tout à la même question. On s'interroge sur qu'est-ce qui fait que des objets sont susceptibles d'être vus. Alors, plusieurs théories se mettent en place à ce moment-là. Bon, les théories atomistes qui font en sorte que ce sont des petites pellicules qui se détachent des objets et qui rentrent dans les yeux. Bon. Mais la théorie majoritaire, c'est ce qu'on appelle et qui nous paraît aujourd'hui très étrange, mais elle ne l'est pas vraiment. C'est la théorie dite de l'extramission. C'est-à-dire que des sortes de rayons, une lumière émane de l'œil et va palper les objets. Alors, évidemment, ça nous paraît très étrange parce qu'on n'est plus du tout habitué à ça. Mais si on a bien en tête l'idée « comment je vois », on sait que l'on tourne sa tête vers les objets. Donc, ce n'est pas complètement stupide. D'ailleurs, quand on fait des études dans les écoles, si on pose la question aux enfants, ils disent « oui, mais c'est la lumière, elle ne peut pas rentrer dans l'œil, ça me ferait mal. Mmh. » Donc, elle sort de moi. C'est assez étonnant et c'est assez intéressant de ce point de vue. Et donc, cette théorie a permis en particulier une géométrisation de la lumière parce que les rayons qui sortent de l'œil sont comme les rayons qui vont entrer dans l'œil. La géométrie est possible et ça permet la construction d'une théorie de la perspective. Donc c'est tout un ensemble de travaux qui se met en place, disons, dans l'Antiquité autour de cela. Et on a les travaux d'Euclide, Euclide bien connu pour les mathématiques, mais bien connu aussi pour un traité d'optique où il explique que les rayons sortent de l'œil. Alors ça ne veut pas dire qu'on a des rayons qui sortent, mais ils vont palper. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la lumière devient une sorte de toucher. C'est le tact qui entre en ligne de compte. Donc on est très 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 loin de ce qui se passera, disons, au XVIIe siècle.
Alors, le XVIIe siècle, c'est fondamental, c'est un siècle charnière, et peut-être une première date à avoir en tête, c'est Kepler, en 1604, qui assimile l'œil à un dispositif optique. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'un téléfilm de Stan Neumann avec Denis Lavant et Grégory Gadebois.
Le cristallin est une lentille. L'œil est un télescope naturel.
Un dispositif optique.
Kepler l'a démontré le premier par le raisonnement géométrique, mais une petite expérience pratique vaut mieux que de longs discours. Heureusement, la nature a eu la bonne idée de fabriquer les yeux par paire.
J'ai gratté l'arrière de l'œil pour le rendre transparent.
Voilà, l'image du monde comme elle se forme sur la rétine.
Nous voyons à l'endroit. Elle est à l'envers. Comment faites-vous pour la redresser ?
Je ne sais pas.
Ce n'est pas une réponse.
C'est la seule que j'ai. Aucun rayon lumineux ne peut aller plus loin que le mur opaque de la rétine. Au-delà commence un monde obscur qui échappe à la raison mathématique. La lumière n'y pénètre jamais et par conséquent, les lois de l'optique et de la géométrie cessent de s'y appliquer.
Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Michel Blais, et comment une nouvelle distribution des savoirs se met en place?
Alors, il se passe quelque chose avant, malgré tout. Parce que, entre ce que j'ai dit tout à l'heure de l'extramission, des rayons qui sortaient, et du texte qu'on vient d'entendre, là, de Kepler, il y a, disons, un petit moment que j'aime bien rappeler, c'est ce qui se passe autour de l'an 1000 du côté de Bagdad. Bagdad est connu pour bien d'autres choses actuellement, mais à l'époque, c'était une cité florissante et intellectuellement très très dynamique. Et en particulier, il travaillait un savant qui est Ibn al-Haytham ou al-Razen. Et c'est lui qui, disons, de façon à peu près définitive, adopte la théorie de l'intramission, c'est-à-dire considère que la lumière entre dans l'œil. Alors, il fait de nombreuses expériences, on a des écrits, on a des travaux considérables d'Alhazen. C'est un homme dont on ne parle pas souvent, mais les écrits d'Alhazen, aussi bien en mathématiques qu'en physique, sont considérables. C'est un point d'ancrage, malgré tout, dans la transmission entre le savoir grec et le savoir occidental. Il y a quelque chose d'important qui se joue là, il y a de la nouveauté, et en particulier, il y a cette nouveauté. Alors, à partir du moment où, effectivement, les rayons suivant Alhazen rentrent dans l'œil, se posent immédiatement des questions. Qu'est-ce qui se passe dans l'œil ? Donc, des questions de physiologie de l'œil, et c'est bien ce qu'essaye de faire Kepler, c'est-à-dire qu'il se pose la question, mais si la lumière entre dans l'œil, qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'œil, comme cela a été parfaitement bien dit, devient un dispositif optique, et à ce moment-là, il y a une nouvelle distribution du savoir optique qui se met en place, qui est toujours la nôtre. Mmh. Il y a qu'est-ce qui entre dans l'œil, c'est-à-dire qu'est-ce que la lumière, qu'est-ce que c'est cet objet qui entre dans l'œil, question que ce ne posaient pas du tout les anciens, qu'est-ce que c'est cet objet qui entre dans l'œil, s'il entre dans l'œil, qu'est-ce qui se passe? Rétine, nerf optique, physiologie de la lumière, et puis ce dont Kepler ne sait pas quoi dire, c'est la troisième étape, c'est-à-dire l'image mentale, toute la psychologie de la lumière, des sujets qui sont encore des objets de recherche aujourd'hui.
Voilà,
la physiologie de la lumière aujourd'hui est une chose extrêmement compliquée. On connaît à peu près bien maintenant comment se fabrique l'image, comment fonctionne la rétine, comment fonctionne le nerf optique, comment tout ça fonctionne. On fait des travaux de neurosciences sur les lobes, les morceaux du cerveau, les parties du cerveau qui construisent l'image. C'est une affaire très compliquée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces trois parties qui apparaissent au XVIIe siècle sont encore trois, disons, domaine du savoir, et effectivement, au XVIIe, on va s'intéresser principalement à la question de qu'est-ce que la lumière? Et c'est en ce sens que tout va démarrer à ce moment-là, du point de vue des théories de la lumière, qui vont permettre à Serge Haroche, quelques siècles plus tard, de raconter des belles choses sur la mesure de la lumière.
Et un autre grand homme entre en scène, c'est Descartes.
Alors, c'est effectivement Descartes, parce que Descartes, son rôle... Alors, moi, je suis quelqu'un, je le dis à chaque fois, parce que j'ai comme ça quelques tropismes, mais qui sont justifiés. J'aime beaucoup Descartes, et c'est un homme très, très important. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre la suite que si l'on parle de Descartes. que ce soit en optique, que ce soit en mécanique, dans l'ensemble. Alors, on peut dire qu'il a dit beaucoup de bêtises. Oui, peut-être, mais fallait les dire. C'est ce que je peux. Et en optique, c'est absolument considérable. C'est-à-dire que son idée, c'est d'expliquer l'ensemble des phénomènes, quels qu'ils soient, uniquement par figure et mouvement, sans cause occulte, sans rien d'autre que cela. Alors, comment peut-on expliquer un phénomène aussi compliqué que la lumière exclusivement de cette manière? Et ce qu'il va faire, c'est mettre en place un modèle mécanique, qui va rendre compte des le début des 1600-1637, puisque cela apparaît dans, à la suite du discours de la méthode, puisqu'il y a le discours de la méthode, et derrière, il y a les essais. En général, on lit le discours de la méthode, mais on ne lit pas les trois essais, la géométrie, l'optique, si je puis dire, et puis les phénomènes météorologiques. Voilà. Et alors, ce qu'il fait, c'est assez simple, on ne va pas rentrer dans la métaphysique de Descartes, simplement, il considère que le monde est absolument plein, et qu'en conséquence de quoi, la lumière... C'est simplement la chose suivante. Une source lumineuse, ce sont des petits corpuscules qui tournent très très vite. Comme ils tournent très très vite, ils produisent ce qu'on appellera, ce que Huygens appellera, une force centrifuge. Cette force centrifuge pousse le reste de la matière, des boules. Ça se transmet jusqu'à l'œil qui reçoit cette impulsion. Et l'œil a un sentiment de lumière. C'est-à-dire que la lumière n'appartient plus en soi au monde, n'est plus ce qu'on appelait une qualité réelle, mais devient une sensation, c'est la subjectivité qui est animée et qui produit cette impression de lumière. Disons, du point de vue des couleurs, on comprend bien ce que ça veut dire, ce qui est réel et pas réel. Quand on dit, aujourd'hui encore, tel objet est rouge. Le mot « est rouge » veut dire que cet objet, il est rouge réellement. Non. À partir de Descartes, on considérera que le rouge est une impression subjective produite par un phénomène mécanique extérieur qui agit sur la rétine, le cerveau et patati et patata, et qui produit ce qu'on appellera la sensation de rouge. On entre dans un monde de la subjectivité et la lumière est tout autre chose que ce qu'elle était avant.
Autour de la question comment analyser la lumière, elle peut aussi inspirer les poètes et parfois les chanteurs. On écoute Dominica, quelques lumières sur RFI.
Des maisons de fortune, s'il faut, j'y vivrai. Quelques pierres de lune, je m'en contenterai. Des baisers de secours, je les chercherai. Des gueules de bois d'amour, je me remettrai. Je ne demande pas la lumière, quelques lumières, seulement longeant le bord jusqu'à la rue que rien n'éclaire. Quelques lumières seulement, de fièvre inespérée. S'il faut, je sortirai. Ah, des lèvres lassées, je m'arracherai. Je ne demande pas la lumière, quelques lumières, seulement longeant le bord de la rivière jusqu'à la rue que rien n'éclaire. Quelques lumières, seulement l'obscurité me fait des signes. Je lui plais. Je ne demande pas la lumière, quelques lumières seulement. longeant le bord de la rivière, jusqu'à la rue que rien n'éclaire, quelques lumières seulement.
Dominica, quelques lumières sur RFI. Michel Blais, à l'occasion de cette année internationale de la lumière, l'optique d'Isaac Newton est rééditée par les éditions Duno et c'est vous qui présentez ce texte fondateur. Alors Newton, c'est le calcul infinitésimal, c'est la gravitation et c'est aussi l'optique avec ce traité mais qui paraît en 1704, mais il commence ses expériences bien avant. Écoutez le philosophe Gaston Bachelard en 1956. Et il parle du fameux prisme de Newton.
On note que Newton acheta un prisme en 1664. Il fit alors des expériences sur la décomposition de la lumière. Mais son grand traité est sur les réflexions, réfractions, inflexions et les couleurs de la lumière ne parut qu'en 1704. Les expériences de la décomposition de la lumière nous semblent maintenant faciles. Dans une chambre noire, faire tomber un rayon de soleil sur le prisme et constater sur un écran le spectre dispersé en sept couleurs, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge, c'est, semble-t-il, l'enfance de l'art. Et Newton, dans de nombreuses expériences, avait obtenu des couleurs homogènes. Dans d'autres expériences, en superposant les sept couleurs, il reconstituait la lumière blanche. Il est surprenant que des expériences aussi péremptoires aient pu rencontrer une si longue incompréhension. Durant tout le XVIIIe siècle, l'optique de Newton rencontra de nombreuses oppositions, en particulier celle de Goethe et de Schopenhauer.
Réaction, Michel Blais.
Oui, alors ça me fait toujours plaisir d'entendre Gaston Bachelard. Bon, j'ai connu que la fille, moi, mais bon, mais c'est... Non, ça me fait toujours plaisir. Et Gaston Bachelard, là, une description. Alors, pour les dates, effectivement, il dit 1764, c'est 1664-65. Pour les premières expériences, et puis 1704 pour la publication du traité d'optique. Je signale que celui qui est réédité à partir de la traduction de Jean-Paul Marat.
Le révolutionnaire assassiné par Charlotte Corday.
Par Charlotte Corday. Bon, je dirais quelques mots après de Marat, que j'aime bien aussi, c'est un peu comme Descartes, c'est des personnages qu'on aime bien. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire sur Marat, et ça surprend qu'il ait traduit précisément Newton.
Alors, concernant Newton, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'au fond, il n'est pas le seul à faire des expériences avec un prisme.
C'est en ce sens que lorsque Gaston Bachelard parle des expériences avec le prisme, il se réfère au traité de 1704, c'est vrai, et il se réfère aussi au texte publié avant de Newton, c'est-à-dire qu'au texte de 1672. Ce que ne connaissait pas Gaston Bachelard, il ne pouvait pas les connaître parce que c'était pas publié, ce sont les manuscrits de Newton. Et à partir de ce moment-là, on a maintenant, depuis les années 1970, les manuscrits de Newton à disposition. Donc, on sait effectivement ce qu'il a fait. Alors, les choses ne sont pas aussi simples. On a l'impression toujours, lorsqu'on parle de Newton, que cet homme prend un prisme, regarde ce qui se passe dans le prisme et trouve sa théorie. Bon, je veux bien croire qu'il était assez génial, mais c'est pas du tout comme ça que cela s'est produit. Newton, effectivement, prend un prisme, mais tout le monde prenait un prisme à l'époque. Voilà. Ça n'a rien d'original. Depuis même l'Antiquité, on avait des prismes. Mais depuis le 15e, 16e siècle, tout le monde fait ce qu'ils appellent l'expérience du prisme. Descartes fait l'expérience du prisme. Les contemporains comme Hooke, Boyle, tous ces gens-là font l'expérience du prisme. Le seul problème, c'est que Newton ne la fait pas comme les autres. Or, la vraie interrogation que l'on peut avoir, c'est pourquoi dans les manuscrits de Newton, Newton monte pas son expérience comme les autres. Gaston Bachelard l'a dit, il la monte dans l'obscurité. Mais quelle drôle d'idée. D'ailleurs, Goethe fera la remarque. Quelle drôle d'idée d'étudier la lumière dans l'obscurité.
Alors, on va continuer de parler de Newton, Michel Blais. Nous allons voir tout à l'heure comment les théories corpusculaires et les théories ondulatoires vont s'affronter et comment le néerlandais Christian Huygens va entrer dans la bataille. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations.
De la question. question.
Sophie Joubert.
Autour de la question « Comment analyser la lumière ?» avec Michel Blais, philosophe et historien des sciences, président du comité pour l'histoire du CNRS. Vous préfacez chez Duno deux textes fondamentaux de l'histoire des sciences, le traité de la lumière de Huygens et l'optique de Newton. Alors Michel Blais, on parlait tout à l'heure des expériences de Newton avec un prisme, peut-être un mot de complément.
Oui, je voudrais juste dire une petite chose. Il faut bien comprendre que les expériences avec un prisme se font pas immédiatement, ne sont pas faites immédiatement par Newton. Il se fabrique d'abord, pour des raisons, bon, on le voit dans les manuscrits, une certaine idée de ce qu'est la lumière. C'est-à-dire qu'il formule l'hypothèse, en raison de problèmes optiques très bien présentés, que la lumière est un mélange hétérogène de rayons différemment réfrangible. Et il se dit...
Réfrangible, expliquez pour nos auditeurs.
Qu'ils peuvent avoir des degrés de réfraction différents qui provoquent le fameux spectre. Mais il formule cette idée concernant la lumière. Puis à ce moment-là, il monte l'expérience.
Donc c'est une expérience construite.
C'est une expérience construite. Et c'est pour ça qu'il l'a fait dans l'obscurité, alors que tout le monde l'a fait en grand jour, que tout le monde envoie la lumière directement sur le prisme, alors que lui, il prend un petit trou. Tout élément qui permet de construire une certaine expérience. Alors, ce qu'a dit Gaston Bachelard, pourquoi ils sont pas contents les autres, pourquoi? Mais tout simplement parce que d'abord, Newton l'explique très mal et que personne remonte, ne sait monter l'expérience de Newton. En plus, Newton dit des choses un peu étranges. Il dit il y a cette couleur principale, mais il y en a un nombre indéfini. Alors les peintres vont s'énerver en disant non, nous on a trois couleurs, pourquoi lui il en a sept? Enfin, des problèmes insondables qui sont des problèmes de physiologie et de perception des couleurs qui ne seront résolus qu'au 19e siècle. Mais si vous voulez.
Donc ça veut dire qu'il était en avance sur son temps?
C'est-à-dire qu'il pose des problèmes, mais d'un certain point de vue, nous sommes encore en train de résoudre les questions soulevées par la conception newtonienne de la lumière. De fait, nous sommes tous des newtoniens, parce qu'aucun d'entre nous ici, nous deux, là, mais d'autres, personne n'aurait l'idée de penser que les couleurs sont de la lumière affaiblie comme on le pensait avant Newton. C'est-à-dire que le rouge, c'est de la lumière plus sombre, enfin, moins sombre que le bleu, etc., etc. Donc, c'est une conception complètement différente. C'est une perception différente et c'est ça qui est essentiel chez Newton. Il crée l'œil moderne. Et il faut pas oublier cette idée. Et on ne l'aperçoit pas dans le texte de Bachelard. C'est ça qu'il faut dire.
Alors, Newton est associé, en tout cas concernant l'optique, est associé au prisme, il est aussi associé aux anneaux, les fameux anneaux de Newton. On va écouter une archive de l'INA, c'est Maurice Françon, professeur à l'université Paris 6, qui parle de cette expérience. C'était en 1977 dans l'émission Les Samedis de France Culture.
Il posait sur une lentille d'un rayon de courbure assez grand, une deuxième lentille d'un rayon de courbure plus petit. Ces deux lentilles n'avaient subi aucune préparation, ces deux lentilles ordinaires. Et il observait les phénomènes par réflexion, et non pas par transmission. Là. En éclairant l'ensemble, il constatait que dans la partie centrale, là où les deux lentilles se touchaient, eh bien, on observait des couleurs très vives, tout à fait curieuses et intéressantes. Et Newton a cherché à expliquer l'origine de ces couleurs. Eh bien, c'était des couleurs d'interférence, tout à fait différentes des couleurs du prisme. Avec le prisme, vous avez des couleurs monochromatiques, nous dirons maintenant monochromatiques, et avec les couleurs des interférences, pas du tout. Ce sont des compositions plus complexes. Eh bien, Newton décrit lui-même dans son livre l'expérience suivante. Il écrase les deux lentilles l'une contre l'autre, et il s'aperçoit que ces anneaux colorés qu'il voit entre les deux lentilles s'écartent, semblent naître du centre et s'écarter. Et au contraire, s'il éloigne un tout petit peu les deux lentilles l'une de l'autre, il constatait que les anneaux se resserraient et rentraient vers le centre. Mais alors là, le problème pour Newton était d'expliquer le phénomène.
Alors Michel, vous avez bien connu Maurice François, est-ce qu'il explique bien?
Oui, alors oui, je l'ai connu autrefois quand j'étais jeune, oui. Mais alors, il explique très bien, deux petits points historiques quand même. Newton n'est pas le premier à faire cette expérience, deux personnes ont précédé, Robert Hooke et Christian Huygens. Mais aucun des deux...
Robert Hooke, le grand opposant à Newton.
Oui, le grand opposant à Newton, Robert Hooke, celui de la micrographie, qui fait des observations microscopiques et des choses comme ça. Et Christian Huygens aussi fait ses expériences. Et Newton les reprend. Mais la grande différence de Newton, c'est que Newton va donner des raisons mathématiques à ces phénomènes. Et pourquoi il peut donner des raisons mathématiques? Simplement parce que lui, dans sa théorie du prisme, enfin avec le prisme, a créé la notion de lumière monochromatique. Et c'est avec de la lumière monochromatique jaune qu'il envoie sur ses anneaux. Et effectivement, Françon décrit ça très bien, sauf que Françon le donne en lumière blanche, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et à partir de ce moment-là, il peut calculer l'épaisseur et la régularité entre l'épaisseur qu'il y a entre les deux lentilles et l'apparition régulière de ces fameux anneaux colorés, ce que personne n'avait fait avant. Mais l'expérience était déjà là. Avait déjà été monté, il faut quand même le dire. On appelle ça les anneaux de Newton, on aurait pu appeler ça les anneaux de Hooke ou les anneaux de Huygens, sauf que, comme dirait Newton, moi j'explique mathématiquement ce que les autres n'expliquent pas. Alors évidemment, accordons-lui cette priorité.
Alors, vous parlez du néerlandais Christian Huygens, Michel Blais. Alors, ce qu'il faut bien comprendre à l'époque, c'est qu'au fond, on a deux théories de la lumière. D'un côté, la théorie corpusculaire avec Newton, et de l'autre, la théorie ondulatoire. C'est là que ça commence à se structurer.
Alors, c'est là que ça se structure. C'est-à-dire que Newton ne dit pas exactement s'il est corpusculariste ou pas. Newton est un homme extrêmement prudent.
Il fait des hypothèses, il pose des questions.
Oui, et puis c'est surtout qu'il pense que tout ce qu'il dit, il construit. Il faut jamais oublier que Newton construit toujours ses discours dans une perspective épistémologique, c'est-à-dire qu'il crée l'illusion, et ça a très bien marché plusieurs siècles, que tout sort de l'observation. Alors que tout ne sort pas de l'observation, d'ailleurs à mon avis pas grand-chose sort de l'observation. Mais que tout sort de l'observation. Et il ne dit donc pas qu'il fait une hypothèse corpusculariste. Mais quand on regarde de près les expériences qu'il fait, on constate que derrière ces expériences, la lumière est pensée comme émanant du soleil, un jet de corpuscules. Tandis que Christian Huygens pense que la lumière, plutôt dans la perspective cartésienne, si je puis dire, est une onde qui se propage, c'est-à-dire sans transmission de matière. Donc on est dans deux modèles absolument différents de la lumière, et deux modèles qui vont s'opposer pendant tout le XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, avec une priorité à Newton parce que ça marche mieux.
Alors comment Huygens va-t-il se lancer donc vers 1672 dans l'étude de la nature de la lumière? Donc il prend la suite, donc vous l'avez dit, il est influencé par Descartes, mais il prend aussi la suite de savants comme Erasme Bartholin.
Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'entre Descartes et Newton, il y a eu un certain nombre de phénomènes qui ont été mis en évidence, si je puis dire, la diffraction de la lumière par Grimaldi, la double réfraction du spat d'Islande par Erasme Bartholin, et puis une chose très importante aussi, la vitesse de la lumière. Mesurer la vitesse de la lumière n'est pas chose aisée. Alors, Descartes pensait que la lumière se déplaçait en un instant, c'est-à-dire dont la vitesse était infinie, mais dans le monde de Descartes parfaitement plein, ça va très très vite. Et alors là, la vitesse de la lumière est mesurée par Olaus Römer. Alors, c'est une histoire qui m'amuse toujours, Olaus Römer, donc je vais la raconter rapidement.
Il la mesure, mais il n'a pas tous les outils pour la mesurer.
Mais Römer, c'est une affaire moderne, parce que Römer travaille à l'Observatoire de Paris, qui vient d'être créé. L'Académie des sciences est créée en 1666. Quelques années plus tard, on construit l'Observatoire de Paris, qu'on peut toujours visiter actuellement. Et on a besoin, eh bien, de post-doc.
Eh oui, c'était pas comme ça à l'époque.
On dit pas comme ça à l'époque, mais c'est bien à ça que cela revient. Et Picard va chercher Monsieur Römer, qui est au Danemark et qui fait des études d'hydrographie, et il lui dit de venir travailler avec lui à l'observatoire. Et évidemment, on donne à Römer un travail absolument impossible, qu'on donne à tous les post-docs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il doit faire les éphémérides des satellites de Jupiter. Alors, il fait des tableaux, et puis au bout d'un moment, il constate qu'il y a des écarts par rapport à ce qu'il aurait dû obtenir, et ces écarts, il les explique en disant que la lumière met du temps à se déplacer. Et donc, on a la vitesse de la lumière qui est finie, et le mémoire qu'il donne dans le Journal des Savants permet d'avoir une estimation de la vitesse de la lumière qui est autour de 270 000 km/s, c'est-à-dire excellente. Donc, on a mesuré la vitesse de la lumière. Et Römer, qui a fini ça, eh bien, retourne après travailler à l'hydrographie chez lui au Danemark. C'est un post-doc. C'est tout, comme on fait aujourd'hui.
Et la vitesse qu'il a donnée n'est pas très loin de
la vraie vitesse. C'est les mesures qu'il a fait sont excellentes. Et ce sont, à partir des satellites de Jupiter qui avaient été observés par Galilée au début du siècle.
Alors, ça, c'est le terreau sur lequel grandit Christian Huygens. Je voudrais vous faire écouter la voix du père Pierre Costabel, oratorien et historien des sciences. C'était sur France Culture en 1979, toujours dans l'émission Les Samedis de France Culture qui était consacrée à Huygens.
Sa découverte des ondes enveloppes pour la lumière provient de l'étude qu'il a faite du SPAT d'Islande, qui lui a été apportée en 1672. Mais il est resté longtemps en contemplation devant ce cristal, et il l'a manié sous toutes ses faces, il a fait des expériences là-dessus, et on ne peut pas dire qu'il avait une idée préalable. Il a manié son cristal, il a regardé comment la lumière passait à travers, il a fini par découvrir qu'il y avait une double réfraction, et alors... C'est ce phénomène de la double réfraction qui lui a fait comprendre qu'il était absolument impossible de se confier à la notion très simpliste, n'est-ce pas, de l'indice de réfraction tel que le voulait Newton. Si vous voulez, le dessin, le support visuel, par l'intermédiaire de la géométrie, a joué un très grand rôle dans cette affaire. Et il me semble que cette invention par Huygens des ondes d'enveloppe est très caractéristique de cette espèce de connivence qu'avait chez lui le travail de la raison et puis l'observation et ce que l'observation suggère, ce qu'elle permet à l'esprit d'imaginer comme figure, comme structure de communication, etc.
Que sont les ondes d'enveloppe, Michel Blais ?
Écoutez, c'est quand on fait on a une onde qui part d'un point central et qui se déploie. Par exemple, on laisse tomber un caillou dans l'eau, on a une onde qui apparaît. Et alors, l'idée de Huygens, c'est que chacun des points de l'onde qui avance et devient une nouvelle source. Donc, c'est une multiplicité, un nombre infini de petites sources. Et ces petites sources, on peut les envelopper par une fameuse enveloppe qui donne un nouveau front d'onde. Donc c'est une multiplicité de petites sources. C'est d'ailleurs ce qui va faire la difficulté des théories ondulatoires. Parce que lorsqu'on a un modèle de ce type, eh bien il est très difficile d'expliquer la propagation rectiligne. Parce que ce qui est derrière l'idée de Huygens, c'est la propagation du son. Mmh. Or, lorsqu'on parle derrière un trou, dans la pièce qui est de l'autre côté... Vous entendez partout le son.
Oui.
Or, la lumière, elle, va simplement en ligne droite.
Elle passe par le trou.
Oui, et elle est en ligne droite. Donc, si on a des corpuscules lumineux, on explique très bien cette propagation rectiligne. Mais si on a des ondes, comment fait-on pour rendre compte de la propagation rectiligne? Alors, Huygens s'explique qu'effectivement, ça doit se détruire, des ondes doivent se détruire. Enfin, on n'y arrive pas bien. On y arrivera au début du 19e siècle, quand on saura faire des intégrations, c'est-à-dire qu'on fera un calcul compliqué pour intégrer toutes les petites ondes et montrer qu'elles se détruisent les unes avec les autres. Et comme ça, on peut expliquer, et ça, ce sera la théorie d'Huygens-Fresnel.
Donc on y arrive par les maths.
Alors on y arrive par les maths, c'est-à-dire c'est l'intégration mathématique qui montre que les petites ondes, des parties se détruisent les unes avec les autres et qu'il ne reste plus que la propagation rectiligne. Et c'est en ce sens que c'est une grande victoire. Mais tout le 18e siècle reste newtonien parce que quand même l'une des propriétés principales de la lumière, c'est de se propager en ligne droite. Alors, si on a une théorie qui n'est pas capable d'expliquer ça simplement, on peut dire que ça ne va pas. En revanche, les théories de Huygens, expliquer ou du moins tenter d'expliquer plus facilement que le corpuscularisme, les propriétés, disons, d'interférences dont il y a des questions, où il y a des répétitions, où il y a des, comment dire, où les anneaux de Newton, tous ces phénomènes-là, peuvent être plus expliqués par les ondes. Mais personne n'arrive à bien expliquer ça. Seul Newton, lui, donne des explications de tout. Je dirais, contrairement à ce que dit le père Costabel, c'est que Newton, lui aussi, explique le SPAT d'Islande, dans ses questions au traité d'optique, il y a une théorie corpusculaire du SPAT d'Islande, et il l'introduit à ce moment-là, des termes qu'on retrouvera plus tard chez Malus dans les théories de la polarisation. Donc c'est assez intéressant.
Alors le 19e siècle est plutôt ondulatoire, Michel Blais, et on va voir comment on arrive aux théories einsteiniennes. On en parle juste après Coco Rossi, Grave Digress.
Thank you.
Grave Digress sur RFI. Michel Blais, avant de parler de la révolution einsteinienne, j'aimerais qu'on fasse un détour par la révolution française, puisque je le disais tout à l'heure, c'est le révolutionnaire Jean-Paul Marat qui a traduit l'optique de Newton. Un mot sur cette traduction et sur Marat scientifique?
Oui, alors Marat, on ne le connaît en général qu'à partir du moment où il a créé l'Ami du Peuple, c'est-à-dire à peu près 2 ou 3 ans de vie. Mais Marat a vécu avant. Il a vécu longuement, il a vécu en Angleterre, et c'était d'abord un scientifique spécialisé dans les maladies des yeux, différentes études, comme ça qu'il a fait. Puis il est venu travailler en France, parce qu'il était en Angleterre, il est revenu en France, et il s'est intéressé à de nombreuses choses, mais en particulier à l'optique. Et il a fini par traduire l'optique de Newton. Alors, avant de parler de l'optique de Newton traduite par Marat, qui est une très bonne traduction, contrairement à ce qu'ont dit les contemporains qui étaient très méchants avec Marat, mais il y avait des raisons. Et je vais juste raconter 2 choses qui expliquent un peu la situation. Marat voulait rentrer à l'Académie royale des sciences. Ce n'était pas un révolutionnaire, ça ne l'a pas toujours été. Alors moi, je peux regarder la révolution et l'ami du peuple par le petit trou de la lanterne. Marat a convoqué plusieurs fois des membres de l'Académie pour observer ses expériences sur la lumière. Et il disait, voyez-vous, là, il y a les couleurs. Et les gens disaient, non, nous on voit rien. Il disait, si, on voit ça. Et ça se terminait en général par des coups de pied au cul. Et alors, Marat virait les académiciens. Ça s'est fait 2 fois, donc c'était pas très bon pour son entrée à l'Académie, ça s'est fait. Mais je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Marat raconte des choses comme ça? C'est bizarre quand même. Bien, tout simplement parce que Marat avait une maladie des yeux. Il avait une déformation, un problème d'achromatisme, c'est-à-dire qu'au bord de certains objets, il voyait des irisations colorées. Donc, quand il montrait un objet aux académiciens, lui voyait des couleurs, eux n'en voyaient pas. Et il disait, mais parce que vous êtes newtonien, vous ne voyez rien. Mais non, c'est pas parce qu'ils étaient newtoniens, c'est parce que lui avait un problème visuel. Ce qui a fait en sorte que Marat était très fâché par les académiciens, qu'il a écrit un pamphlet, Les charlatans modernes, où il fait référence à ça, et qui a conduit à la fermeture de l'Académie des sciences. Bon, et il s'est mis après dans la politique. Mais il était très mécontent contre le monde savant, mais il y a derrière ça quelque chose lié à l'œil de Marat. C'est une petite anecdote, mais qui, à mon avis, a beaucoup porté pour Marat. Il ne savait pas qu'il avait ce symptôme, c'est ça le vrai problème.
Voilà, et donc cette excellente traduction de l'optique de Newton paraît aux éditions Dunod, de même que le traité de la lumière de Christian Huygens que vous présentez, Michel Blais. Alors, on parlait tout à l'heure du 19e siècle plutôt ondulatoire. Quelle autre révolution apporte Albert Einstein avec son fameux article de mars 1905?
Alors, entre l'optique de Fresnel-Huygens, on en a parlé tout à l'heure, il y a une étape qui est l'optique électromagnétique de Maxwell. Maxwell, les équations de l'électromagnétisme, c'est-à-dire qu'on entre dans une lumière qui devient maintenant une onde électromagnétique et qui explique un ensemble de phénomènes. On a un champ qui semble assez bien constitué, assez bien fonctionner, d'autant qu'on a fait des mesures de la lumière et on a montré que les hypothèses corpusculaires s'accordent moins bien avec l'idée qu'on se fait de la vitesse de la lumière. Bon, enfin bref, on a donc au 18e corpusculariste, on a un 19e ondulatoire. Mais voilà que au début du 20e siècle, parmi les fameux articles de 1905...
Parce qu'il est très productif, Einstein, en 1905.
Il a une période très productive là, et en particulier, il y a son article sur l'électrodynamique des corps en mouvement, qui est bien connu, un article sur le mouvement brownien, et le phénomène photoélectrique, qui montre une discontinuité dans les phénomènes optiques. Alors, précédemment, il y a vu les quantas de Planck. Donc là, on a apparition d'une discontinuité, c'est-à-dire que l'optique corpusculaire qui semblait absolument abandonnée, bien, d'un certain point de vue, elle revient, mais sous une forme complètement différente. Elle revient sous l'idée de quantas et de photons. Donc on aura des photons qui vont apparaître. Donc le fameux débat Huygens-Newton, qui était corpusculaire ondulatoire, semble rejaillir à cette époque avec des théories électromagnétiques qui fonctionnent très très bien pour un grand nombre de phénomènes, plus quelques phénomènes, dont l'effet photoélectrique, qui semble, lui, associé à une discontinuité de la lumière. Je dirais pas corpuscule, parce que les photons ne sont pas des corpuscules au sens où on avait des corpuscules avant. C'est un peu différent.
Ce sont des petits paquets d'ondes?
Oui, alors ça deviendra ça dans la suite. Mais si vous dites petits paquets d'ondes, vous résolvez déjà le problème onde-corpuscule. Mmh. Voilà, donc on est là, et c'est à ce moment-là que se pose le problème, la lumière est-elle une onde, est-elle un corpuscule, et que l'on va avoir précisément... En 24, la thèse de Louis de Broglie.
Alors justement, je voudrais vous faire entendre la voix de Louis de Broglie, physicien et mathématicien, prix Nobel de physique en 1929. Et il explique pourquoi la théorie d'Einstein est mixte et il parle de ses propres recherches.
Einstein aperçoit dans ses lois la preuve que le rayonnement a une structure granulaire. L'énergie dans une onde de fréquence nue étant concentrée en corpuscule de contenu énergétique égal à H multiplié par nu. Il en tire avec une admirable simplicité l'interprétation des lois photoélectriques. Or, ces lois ont été très exactement vérifiées. Ainsi s'est trouvé directement appuyé sur des expériences précises la nécessité de revenir en quelque manière à une conception corpusculaire de la lumière, déjà prônée par Newton et par d'autres savants, avant que le succès de la théorie des ondes à la suite de l'œuvre admirable de Fresnel n'ait amené tous les physiciens à l'abandonner. Et cette nouvelle théorie granulaire de la lumière, Einstein, pour en marquer l'origine quantique, l'appelait la théorie des quantas de lumière, nous la nommons aujourd'hui théorie des photons. Bien entendu, les conceptions d'Einstein se heurtèrent tout de suite à de fortes oppositions. De grands maîtres de la science comme Lorentz et Planck n'ont pas de peine à montrer qu'une théorie purement corpusculaire de la lumière ne peut rendre compte des phénomènes de diffraction et de cohérence des trains d'ondes dont la théorie ondulatoire offre une interprétation immédiate. Einstein ne niait pas ces difficultés. Il penchait vers une théorie mixte qui admettrait l'existence des grains d'énergie radiante et qui lierait leur mouvement et leur localisation à la propagation d'une onde lumineuse homogène du type classique. Lorsqu'en 1924, j'ai exposé dans ma thèse de doctorat les idées qui sont restées à la base de la mécanique ondulatoire, Einstein en eut connaissance par l'intermédiaire de Paul Langevin. Il publia en janvier 1925, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de Berlin, une note où, s'appuyant sur ses idées nouvelles et sur un travail récent du physicien hindou Bose, il précisait la statistique applicable à une assemblée de particules indiscernables les unes des autres.
Réaction Michel Blais.
Ah, que cela est bien dit. Non, c'est admirable. C'est-à-dire, la qualité de vulgarisateur de Louis de Broglie, lorsqu'il parle de ondes et corpuscules, est une chose admirable. Il y a un nombre considérable d'ouvrages qu'il a fait autour de cette question. Alors, dans sa thèse, il montre que la dualité onde-corpuscule est une propriété de toute la matière. C'est-à-dire qu'on peut faire, après des expériences de diffraction avec des électrons, que toute la matière est assujettie à cela. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va construire la mécanique quantique. Il est à la charnière, comme il dit, lui, il est dans la mécanique ondulatoire. Après, il y a toute une histoire des travaux
C'est toute une autre histoire.
Oui, puis il y a toute une histoire des travaux de Louis de Broglie, qui reste quelqu'un ancré dans une certaine perspective mécaniste de la physique, alors qu'il y a des perspectives je dirais pas nominalistes, mais moins, qui cherchent pas de modèle mécanique, qui sont les théories de Bohr et de ces gens-là. Mais là, on est dans une autre histoire. C'est fini. La dualité onde corpuscule, c'est fini. On est dans l'optique quantique. Et puis, on va évidemment arriver à Haroche, dont on parlait au début, qui lui-même, avec, après Quentin G, s'occupe des photons eux-mêmes, d'utiliser des photons pour ralentir des atomes, de ralentir ces choses-là et de faire les fameux atomes froids et toutes ces choses-là. On est là dans un monde qui est très, très loin de celui d'Einstein et Huygens. Mais il n'était pas pensable sans Newton et Huygens.
Merci beaucoup, Michel Blais. L'optique de Newton et le traité de la lumière de Huygens que vous présentez sont publiés chez Duno dans le cadre de l'année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Merci à Cécile Bonici. La semaine prochaine, nous parlerons de la science des années 60. À vendredi prochain et lundi, vous retrouvez bien sûr Caroline Lachowski.
Tous les cinémas du monde.